Bienvenue sur Socast, un podcast d'actualité en droit du travail belge qui vous est proposé par le cabinet d'avocats Sotra. Lors de chaque épisode, nous discutons des nouveautés législatives ou jurisprudentielles qui méritent votre intérêt. Nous vous souhaitons un moment agréable et instructif.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Reichardt, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra, et je suis très heureux de vous accueillir pour ce deuxième épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Salomé Van Bunen et Valentin Anquet pour nous entretenir durant les 10 prochaines minutes du RGPD dans le cadre des relations de travail. Le règlement général sur la protection des données fête cette année son 5e anniversaire. Indéniablement, ce règlement a eu un impact majeur sur la gestion et la protection des données personnelles des travailleurs. À l'occasion des 5 ans du RGPD, nous vous proposons d'ailleurs un webinaire le lundi 14 juin 2021 prochain, co-organisé par Sotra et Manpower. Nous y aborderons, entre autres, les dernières décisions rendues par l'autorité de contrôle à l'égard d'employeurs s'agissant de leur conformité au RGPD. Pour vous inscrire à ce webinaire, il vous suffit de surfer sur notre site www.sotra.be. Revenons au podcast et pour celui-ci, nous vous proposons d'évoquer déjà plusieurs questions pratiques illustrant l'importance du RGPD dans les relations de travail. Alors Salomé, bonjour. En tant qu'employeur, puis-je traiter les données sensibles des travailleurs, comme par exemple l'état de santé, les convictions syndicales, l'origine raciale, etc. Quels sont les points d'attention à cet égard?
Alors bonjour Olivier. Oui, ces données sensibles peuvent être traitées, mais à certaines conditions. Rappelons au préalable la notion de données sensibles. Ce sont des données qui relèvent des données particulières, qui sont listées limitativement par le RGPD. Il y a 6 catégories de données sensibles. La première, celles qui ont trait à l'origine raciale ou ethnique. La deuxième, celles qui ont trait aux convictions politiques, syndicales, religieuses, philosophiques. La troisième, tout ce qui a trait aux données génétiques. La quatrième, ce sont les données biométriques, donc celles qui visent à identifier une personne. La cinquième, ce sont les données concernant la santé. Et enfin, la sixième, ce sont toutes les données concernant l'orientation sexuelle. On peut ajouter à cela les informations sur les condamnations pénales, les informations qui sont reprises, par exemple, dans l'extrait de casier judiciaire. Cette question est très importante car, en effet, l'employeur est amené à traiter sans doute plus de données sensibles que ce qu'il ne croit. Nous pouvons citer, par exemple, la gestion des incapacités de travail, la vérification de l'extrait de casier judiciaire pour l'accès à certaines professions réglementées, ou encore la mise en place d'un système de contrôle des accès aux bâtiments avec empreintes digitales. L'employeur traite donc potentiellement, pour différents motifs, un nombre important de données sensibles. Et en fait, par principe, le RGPD interdit de traiter ces données. Et par exception, le RGPD prévoit certaines bases légales qui vont permettre de traiter ces données. Et pour les données sensibles, le fondement légal le plus souvent utilisé en droit du travail sera celui lié aux obligations légales en droit du travail ou de sécurité sociale. Par exemple, la loi oblige l'employeur à organiser des élections sociales, il peut donc traiter les données relatives à l'appartenance syndicale de ces travailleurs qui se présentent sur des listes électorales. Une autre base légale qui pourrait être utilisée pour le traitement de données sensibles, c'est le consentement du ou de la travailleuse. Donc utiliser le consentement en droit du travail n'est pas exclu. Mais selon les autorités de contrôle, il doit être retenu de manière subsidiaire et marginale dans le contexte des relations de travail, puisque le consentement sera rarement donné de manière libre, vu le déséquilibre de force entre les parties. Plus concrètement donc, le consentement sera admis que si le travailleur peut refuser de le donner sans crainte de représailles et si aucune autre base légale n'existe. Par exemple, nous pourrions envisager de demander le consentement de travailleurs pour recueillir leurs empreintes digitales dans le cadre d'accès aux locaux. Nous pouvons considérer que le consentement ici peut être donné de manière libre et sans représailles puisque l'entreprise pourrait mettre à disposition un accès via un code, par exemple. Attention en tous les cas, quand vous recueillez le consentement, de le recueillir au préalable et de pouvoir conserver une preuve écrite. Donc oui, l'employeur peut traiter des données sensibles si une base de licéité est rencontrée. Et je préciserai peut-être encore que, outre le RGPD que vous devez respecter, rappelons qu'une loi a été adoptée en Belgique en 2018, dont il faut tenir compte et que celle-ci ajoute également des obligations à charge des employeurs, par exemple en ce qui concerne les données sensibles. En effet, donc lorsque les travailleurs traitent des données, par exemple le département RH, donc des données sensibles, vous devez veiller premièrement à établir une liste des travailleurs ayant accès à ces données et la tenir à disposition de l'autorité. Et deuxièmement, vous devez veiller à ce que ces personnes soient tenues par un engagement de confidentialité, par exemple pris dans un avenant à leur contrat de travail. Donc voilà déjà quelques points d'attention majeurs à ne pas perdre de vue lors de traitement de données sensibles.
Merci. Alors, peut-on illustrer l'impact du RGPD, par exemple, dans le cadre d'un processus de recrutement ?
Alors, d'abord, il est essentiel d'informer les candidats au préalable des traitements de données qui auront lieu dans le cadre du recrutement. Cette information peut par exemple être transmise sur le site internet où le candidat peut déposer sa candidature. Différentes informations doivent être transmises et notamment dans le cadre du recrutement, une information très importante est la durée de conservation des informations récoltées. Par principe, à la fin du recrutement, lorsqu'un candidat n'est pas retenu, il est difficile de justifier la conservation de toutes les données traitées dans ce cadre, mais on pourrait concevoir de conserver les coordonnées et le CV du candidat pendant par exemple un an maximum afin de le recontacter en cas de poste vacant, évidemment à condition que vous l'en informiez au préalable. Le cas échéant, il est également indiqué de demander explicitement lors de l'entretien si le candidat n'a pas d'inconvénient à ce qu'on demande des références auprès d'anciens employeurs. Puis ensuite, une autre obligation importante découlant du RGPD dans le cas du recrutement, c'est qu'en fait le candidat a le droit de demander d'accéder et de recevoir copie des données à caractère personnel le concernant qui sont traitées par l'employeur. Donc deux choses importantes à signaler dans ce cadre. La première, c'est qu'en tant qu'employeur, responsable de traitement, vous devez répondre à cette demande dans un délai de un mois. Que la réponse soit positive, négative, nuancée, il faut répondre. Ça, c'est vraiment le premier réflexe. Et ensuite, il faut savoir que le droit d'accès et de copie du candidat, il n'est pas absolu, il n'est pas illimité. Et par exemple, dans une décision récente de notre autorité de contrôle, un travailleur demandait l'accès aux notes prises lors d'entretiens RH et l'employeur avait refusé de les transmettre parce que cela violait les droits et libertés d'autres personnes, ici son personnel RH. Et c'est intéressant parce que l'autorité a insisté en fait sur le fait qu'un équilibre devait être trouvé et que par exemple dans ce cas-ci, il était en fait possible de fournir les documents avec les annotations anonymisées. Donc retenez que le droit d'accès n'est pas absolu mais qu'il existe et que l'employeur doit en tous les cas répondre en déant les délais prévus par le RGPD.
Alors Valentin, bonjour. Un travailleur quitte l'entreprise. Comment doit-on gérer par exemple son adresse email et sa boîte email professionnelle à laquelle il n'aura plus accès puisqu'il a quitté l'entreprise? Mais que peut faire l'employeur ou les collègues qui vont succéder à ce travailleur avec cette adresse email et cette boîte email professionnelle?
Alors bonjour Olivier. Lorsqu'un travailleur quitte l'entreprise, effectivement, l'employeur sera vigilant aussi à ses obligations qui découlent du RGPD, et notamment la gestion de la boîte email, de l'adresse email professionnelle du travailleur qui quitte l'entreprise. Rappelons à cet égard que l'adresse email même professionnelle, dès l'instant où elle indique le nom, le prénom du travailleur, c'est évidemment une donnée à caractère personnel. Et par ailleurs, le fait de ne pas clôturer ou fermer une boîte de messagerie d'une personne qui a quitté l'entreprise, c'est potentiellement un traitement illicite de ces données. Et à cet égard, une décision qui a été récemment rendue par l'Autorité de protection des données, assez largement commentée, il nous paraît important d'en tirer des enseignements pratiques. Dans cette décision, en fait, l'autorité a dégagé quatre grands principes que l'employeur doit suivre en cas de départ d'un travailleur dans l'entreprise. Le premier principe, c'est qu'au jour du départ du travailleur, l'employeur est supposé bloquer immédiatement la boîte de messagerie, donc la boîte email du travailleur en question. Avant cela, donc avant le départ effectif, il est supposé aussi avertir le travailleur de ce blocage pour permettre précisément au travailleur de transférer ou de supprimer les éventuels emails à caractère privé, hein, si une telle utilisation était possible, et pour éviter évidemment que de telles informations ne parviennent à l'employeur. Donc prévoir au préalable cette possibilité pour « reprendre » entre guillemets ou supprimer ses emails. Troisième point d'attention, l'employeur, après ce départ, devrait insérer un message qui va renseigner sur le départ du travailleur, donc un message automatique, et ce, nous dit l'autorité, pendant un délai raisonnable. Donc, qu'est-ce qu'un délai raisonnable ? L'autorité le fixe à un mois, jusqu'à trois mois en fonction de la situation, donc durée durant laquelle l'employeur devrait laisser ce message automatique lorsque quiconque adresse un email à cette adresse email-là. Et enfin, prévoir évidemment, quatrième point, la suppression définitive de l'adresse email professionnelle en question à l'expiration de ce délai, donc de 1 à 3 mois. Donc un délai de 3 mois, on pourrait le concevoir par exemple lorsque c'est un travailleur qui gérait seul un portefeuille important de clients par exemple, ou qui avait une grande expérience ou ancienneté dans l'entreprise. Mais donc au-delà de ce délai, vous devrez supprimer l'adresse email. En tous les cas, l'autorité nous dit dans cette décision que l'employeur doit s'abstenir de transférer automatiquement les emails qui parviendraient dans cette boîte professionnelle. Potentiellement, eh bien, les emails qui s'y trouvent contiennent des informations sensibles à l'égard du travailleur ou de l'expéditeur de l'email, donc il ne serait pas concevable que automatiquement ces emails soient transférés et portés à la connaissance d'autres personnes. Et ici, dans cette décision, l'employeur s'est vu condamné à une amende relativement lourde, administrative, de 15 000 euros pour non-respect précisément de ces principes.
Merci Valentin. Et Salomé, une dernière question pour toi. L'entreprise, ici par exemple, traite un certain nombre de données à caractère personnel, des données de clients par exemple. En tant qu'employeur, quelle est ma responsabilité lorsque un travailleur de l'entreprise accède et traite de manière illicite des données de tiers au sein de l'entreprise? Par exemple, il les consulte de manière illicite, il les subtilise, il les manipule, etc. Quelle est ma responsabilité dans ce cas-là comme employeur?
Alors, l'employeur peut être tenu responsable et être sanctionné pour des traitements de données illicites commis par ses travailleurs. Notre autorité de contrôle a rendu justement une décision sur cette problématique. Et dans les faits, un travailleur de la centrale des crédits aux particuliers avait accédé aux données personnelles de son ex-épouse contenues dans un registre, et ce pendant plus de 2 ans, mais à des fins strictement privées. Alors que normalement, ces données pouvaient uniquement être consultées dans le cadre professionnel et ici dans le cadre d'octroi de crédit. Mais pourtant, même si le travailleur est celui qui a effectué le traitement illicite de données, l'employeur a été sanctionné. Et en effet, l'obligation en fait, de sécurité des données est incombe au responsable de traitement. Et donc, il revient à l'employeur d'implémenter les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour éviter tout traitement abusif par les travailleurs, d'autant plus lorsque les données sont sensibles. Et donc, il doit véritablement mettre en œuvre, pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations. Et ici, ce n'était pas le cas, car pendant 2 ans, ce travailleur a pu accéder sans motif professionnel aux données de son ex-épouse, sans que l'employeur ne le remarque. Donc de manière concrète, l'autorité suggère d'instaurer un mécanisme de contrôle pour vérifier qui consulte les données. Par exemple, cela peut être fait via un registre informatique qui enregistre qui a eu accès à quelles données, à quel moment, etc. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, il faut bien informer les travailleurs d'un tel contrôle. Et à défaut, en fait, d'avoir de telles procédures, l'employeur peut être sanctionné pour violation du principe de sécurité des données. Et justement, dans l'affaire dont je vous parlais, l'employeur s'est vu imposer une amende administrative de 100 000 euros, donc ce qui est une sanction lourde. Et notre autorité la justifie, vu la longueur du traitement illicite, pendant plus de 2 ans, vu les informations sensibles, il s'agissait d'une institution bancaire, et vu le fait que si la plainte n'avait pas été déposée par cette personne, ces consultations illicites auraient sans doute encore perduré.
Eh bien, merci beaucoup Salomé et Valentin pour ces explications tout à fait limpides dans une matière, ma foi, très complexe. Alors, on a pu apercevoir en quelques questions la place des traitements de données à caractère personnel au sein des entreprises. Nous aurons l'occasion d'y revenir de manière beaucoup plus détaillée sur toutes ces conséquences pratiques du RGPD sur les relations de travail dans le cadre de notre webinaire. Nous vous rappelons donc le 14 juin prochain. On vous invite à y participer. Inscrivez-vous rapidement via notre site www.sotra.be. Merci à toutes et à toutes pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode de SOCAST.
SOCAST vous est proposé par Sotra, un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail dans le secteur privé et le secteur public. Surfez sur www.sotra.be pour en savoir davantage sur nos services aux entreprises et aux administrations.